franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est très précisément 19h. Le journal Alain Passerelle, bonsoir.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le feuilleton Notre-Dame-des-Landes. Pas d'évacuation des zadistes, dit le gouvernement, tant que dure le contentieux avec Bruxelles. Contentieux qu'on avait un peu oublié. Les pro-aéroports crient au faux prétexte. Pas de circulation alternée ce week-end à Paris et à Lyon. Les particules fines seront moins nombreuses, apparemment. La situation est toujours difficile en Savoie, dans la vallée de l'Arve. Les bombardements ont repris à Alep. L'ONU s'inquiète de la disparition de centaines d'habitants qui auraient disparu. D'autres empêchés de fuir. François Hollande sur le Charles de Gaulle vante les résultats impressionnants de la campagne menée depuis un an contre le groupe État islamique. Dans cette édition également, la polémique qui monte autour d'un décret qui jetterait la suspicion autour de l'indépendance de la justice. Des militants, des obéisseurs civiques qui volent des chaises dans les banques. La légitime défense non reconnue à Toulouse pour le buraliste de Lavor. Un rapport accablant pour la Russie qui aurait institutionnalisé le dopage. Et puis le livre à avoir, si vous aimez le château de Versailles. Le temps demain, du soleil après les grisailles du matin, sauf autour de la Méditerranée où les nuages persisteront. Le répit aura donc été de courte durée sur la ville martyre. Les avions de l'armée syrienne ont repris leurs frappes cet après-midi sur ce qu'on peut appeler désormais le réduit rebelle d'Alep. C'est la Russie, hier soir, comme si c'était elle qui dirigeait le tout, qui avait annoncé un arrêt des bombardements. Ce matin, c'est aussi Moscou qui a bien martelé que l'offensive ne cesserait à Alep qu'après le départ de tous les rebelles. La chute totale de la ville est proche, semble-t-il, et avec elle, les risques d'exaction. Ainsi, le Haut Commissariat des Droits de l'Homme de l'ONU se dit préoccupé par la disparition de plusieurs centaines d'hommes ayant fui les quartiers orientaux de la ville. Omar Waman a joint tout à l'heure Ravina Shamdazani, porte-parole du Haut Commissariat des Droits de l'Homme.
Nous avons reçu des informations crédibles et très inquiétantes selon lesquelles des centaines d'hommes ont disparu après être passés dans les zones contrôlées par le régime syrien. Leurs familles sont sans nouvelles d'eux depuis leur fuite. Il y a 7 à 10 jours, ces hommes sont âgés de 30 à 50 ans. Il y a également le cas de ces civils qui ne veulent pas fuir vers les zones sous contrôle du gouvernement, même en toute sécurité. Ils ont peur d'être arrêtés et détenus, voire pire encore. Puis nous avons aussi reçu d'autres informations qui indiquent que certains groupes armés de l'opposition empêchent les civils de fuir. Ces groupes ont même demandé les noms des personnes qui veulent fuir. Nous sommes très inquiets. Que comptent-ils faire de ces noms ?
Et c'est dans ce contexte que François Hollande a atterri en milieu d'après-midi sur le Charles de Gaulle. Au large de l'île de Chypre, le porte-avions nucléaire français est sur le point de mettre fin à sa mission en Méditerranée orientale. Il constitue toujours l'une des pièces maîtresses de la coalition internationale contre le groupe État islamique en Irak comme en Syrie. Le chef de l'État n'a pas manqué de vanter le combat mené. Franck Madvon.
François Hollande reçoit les honneurs militaires. Il endosse l'un des costumes qu'il préfère, celui de chef des armées, venu aujourd'hui féliciter ses troupes qui combattent le groupe État islamique.
Chaque jour, grâce à vous, nous repoussons un peu plus cette organisation terroriste qui est maintenant retranchée dans quelques bastions que nous devons absolument conquérir.
Daesh a perdu du terrain ces derniers mois en Irak, en Syrie, et le Charles de Gaulle a joué un rôle clé dans ce déclin. Il représente une part essentielle des forces françaises en guerre contre l'organisation terroriste. 24 rafales sur les 36 en action au Moyen-Orient, mais la mission du porte-avions touche à sa fin.
Avant de rentrer à Toulon, je tenais à m'adresser à vous pour vous dire que vous avez accompli et réussi une mission particulièrement difficile.
François Hollande confirme le retour du porte-avions à Toulon dans les jours à venir. La France, toutefois, reste mobilisée au Moyen-Orient.
Qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Les opérations en Irak et en Syrie vont se poursuivre. Nous continuerons à frapper Daesh et les réseaux qu'il peut contrôler. Nous frapperons et frapperons encore.
Les opérations côté français seront maintenant moins intenses. Quant au Charles de Gaulle, il se prépare à un arrêt technique de 18 mois. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, Franck Madvon, France Inter.
Que vous soyez lyonnais ou parisien, vous n'aurez plus demain à renoncer éventuellement à votre véhicule. La circulation alternée mise en place depuis mardi pour la capitale, depuis hier pour celle des Gaules, ne sera pas reconduite. Les prévisions sont beaucoup plus favorables et le week-end, la circulation dans les villes est bien moindre. En Île-de-France, certaines mesures sont toutefois maintenues, comme la réduction de vitesse de 20 km/h sur l'ensemble du réseau routier, ou bien l'interdiction du transit des poids lourds dans le territoire situé à l'intérieur de l'A86. À Grenoble et son agglomération pour la première fois depuis l'introduction des vignettes anti-pollution le mois dernier, les voitures immatriculées avant 97 n'auront pas le droit de circuler demain et dimanche. En Savoie, dans la vallée de l'Arve, c'est ce vendredi le 10e jour de dépassement du seuil d'alerte à la pollution de l'air. Ils étaient déjà environ 300 pour accueillir le préfet Lambert, venu tenir une réunion de bilan sur le plan de protection de l'atmosphère. Devant l'insistance des manifestants, celui-ci a dû improviser une rencontre avec leurs représentants. Écoutez l'un d'entre eux, Gérard Decor, guide de haute montagne.
Il y a une rumeur qui monte dans toute cette vallée de Bonneville jusqu'à Chamonix et qui ne fait qu'enfler. Et là, on a atteint un point d'exaspération totale de la population face à l'inaction des pouvoirs publics. Pas du maire de Chamonix, pas du maire de Servoz ni des Ouches, mais c'est pas eux qui ont le pouvoir d'arrêter les camions, c'est pas eux qui ont le pouvoir de mettre les camions sur les trains de la ligne ferroviaire Eton en Bassano. Eux, ils ne font que nous soutenir, nous on les soutient, et malheureusement, on n'a rien obtenu jusqu'à maintenant de vraiment sérieux. Alors c'est pour ça qu'on est là, monsieur le préfet, pour vous demander de faire quelque chose, enfin, qui satisfasse les populations en termes de défense de la santé publique, en termes de défense de l'environnement de cette vallée.
Les propos recueillis par Luc Besançon.
Les pros Notre-Dame-des-Landes vont finir par vraiment se fâcher, Alain.
Le gouvernement, enfin nouveau gouvernement, repousse désormais la perspective d'une intervention pour chasser les zadistes qui occupent le terrain du projet controversé depuis de longs mois. Manuel Valls l'avait promis à l'automne, qui touche à sa fin. Cet après-midi à Bruxelles, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a confirmé ce qu'avait déjà dit plus ou moins l'entourage de Bernard Cazeneuve. Pas d'évacuation possible tant que le contentieux avec Bruxelles n'est pas réglé. Contentieux technique assez complexe. Est-ce un prétexte pour ne pas risquer une évacuation jugée elle-même à risque? Le sénateur LR de Vendée, Bruno Retailleau, parle en tout cas de prétexte bidon et de lâcheté politique.
Le signal envoyé aux Français, c'est que si vous faites un excès de vitesse, vous serez condamné. Mais dans une ZAD, vous pouvez faire n'importe quoi, saccager le centre de Nantes et de Rennes à plusieurs reprises et ne rien encourir. Vous vous rendez compte? La claque pour la démocratie, la claque pour la République, l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, je souffre moins de l'atteinte portée à ce que je considère comme un atout pour le développement du Grand Ouest. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est de voir que le pays que j'aime est en train de donner raison et de donner de la force à ceux qui n'obtempèrent pas à la loi de la République. De dire au peuple qui s'est prononcé, on n'en a rien à faire de votre avis. Mon pays qui doit se réfugier derrière Bruxelles et l'Europe pour justifier un renoncement et une lâcheté. C'est donc l'échec jusqu'au bout et je n'attends plus rien, ni de ce président de la République, ni de ce gouvernement.
Bruno Retailleau, proche de François Fillon, au micro d'Antoine Denecher. Pour éviter, dit-elle, un éparpillement des voix, Marie-Noëlle Lienemann a décidé de ne pas être candidate à la primaire de gauche, celle de la Belle Alliance Populaire. Dans un entretien au Monde.fr, elle dit regretter de ne pas avoir su convaincre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg de proposer une candidature unique. Accessoirement, vous l'aurez peut-être remarqué, elle était la seule femme candidate à cette primaire. Marisol Touraine, qui réfléchissait aussi à une éventuelle candidature, dit qu'elle y renonce. D'autres égrènent leurs propositions. Manuel Valls a affiné aujourd'hui son idée de revenu universel, préférant parler d'un minimum décent qu'il a évalué entre 800 et 850 euros mensuels. L'ex-premier ministre, devancé dans les sondages par Emmanuel Macron, a lancé à son tour un appel à ce dernier pour qu'il rejoigne la primaire. Appel aussi aux électeurs potentiels d'Emmanuel Macron pour aller voter à cette primaire. L'ancien ministre de l'économie a proposé, lui, aujourd'hui, de supprimer les départements dans les zones les plus urbanisées et structurées par des métropoles. Et puis, jusqu'où cette polémique ira-t-elle? Lundi dernier, à la veille de sa démission, Manuel Valls a signé un décret plaçant la Cour de cassation, la plus haute autorité judiciaire de France, sous le contrôle d'un nouvel organe du ministère de la Justice. Hier, les deux plus hauts magistrats de la Cour se sont élevés contre ce décret. Ils ont été soutenus aujourd'hui par François Fillon d'une part, Marine Le Pen d'autre part. Les deux parlent d'une disposition qui remettrait en cause l'indépendance de la justice. Que doit-on en penser? Eh bien, on voit ça avec Abdellah Kalidrissi.
À la Cour de cassation, on explique que ce n'est pas un caprice de magistrat et que ce décret porte une atteinte, et pas seulement symbolique, à l'indépendance de la justice. Donner ne serait-ce que l'image d'une ingérence du gouvernement et donc du politique dans le fonctionnement de la Cour de cassation est problématique. Sentant la polémique monter, Jean-Jacques Urvoas s'est voulu rassurant. Le ministre de la Justice précise que l'inspection générale contrôle déjà les juridictions de première instance et d'appel sans que cela ne pose de problème. Et il conclut sa réponse en redisant son attachement indéfectible à l'indépendance de la justice. Fin de l'histoire ? Pas du tout. Les deux hauts magistrats de la Cour de cassation rétorquent au ministre qu'il occulte l'essentiel dans son courrier et que les bonnes intentions ne peuvent pas tenir lieu de bonnes institutions. Fin de citation. D'ailleurs, ils n'ont même pas été avertis du décret. La Cour de cassation rappelle qu'elle n'est pas hostile au principe du contrôle puisqu'elle rend un rapport annuel d'activité et qu'elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Des magistrats regrettent surtout que le gouvernement voit la justice seulement comme une simple administration et oublie que son rôle premier reste la défense constitutionnelle des libertés individuelles.
On connaît bien désormais les faucheurs d'OGM, moins les faucheurs de chaises. Ces militants avaient agi pour la première fois lors de la COP21 en France en volant des chaises dans des agences bancaires pour dénoncer l'évasion fiscale au détriment du financement de la lutte contre le changement climatique. Les faucheurs de chaises, désobéisseurs civiques, refont parler d'eux depuis quelques semaines en multipliant les actions avant le procès de l'un d'entre eux qui aura lieu 9 janvier prochain à Dax pour vol en réunion. Ce week-end, notamment, plusieurs actions vont avoir lieu dans toute la France, dans différentes banques. Donc, certaines ont eu lieu cet après-midi déjà à Limoges, Perpignan ou encore dans le 20e à Paris. Delphine Evenou.
Quelques clics sur Internet et vous trouvez des stages de formation à ces actions hors la loi, destinés à des citoyens un peu frustrés de ne pouvoir s'exprimer que dans les urnes. Wilfried Morin, responsable des actions chez Attac, a déjà formé plusieurs centaines de personnes.
Le fait de jouer un peu David contre Goliath, ça redonne aussi de l'espoir et l'envie justement de se mobiliser et d'aller beaucoup plus loin.
Ce qui n'est pas sans risque, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour un vol de chaise dans une banque. Mais pour Wilfried et ses acolytes, le jeu en vaut la chandelle.
On assume justement ce risque parce qu'on sait très bien que si nos actions sont considérées comme étant illégales, elles sont perçues comme étant totalement légitimes de la part d'une grande partie de la population.
De quoi lancer un débat et faire bouger les lignes, abonde Benjamin du collectif Les Désobéissants.
On est en train de réfléchir par exemple aujourd'hui à comment défendre les lanceurs d'alerte. Clairement, là on va voir bientôt apparaître une traduction d'action de désobéissance civile dans la loi.
Pétition, manifestation, c'est quand tous les recours sont épuisés que la désobéissance civile intervient. Signe que notre démocratie est en panne. Au contraire, sourit la philosophe Sandra Logier.
Vous voyez que ce sont des actions qui demandent plus de démocratie. Donc on peut aussi les prendre comme le signe au contraire d'une bonne santé de la démocratie qui réclame de l'intérieur en fait son extension.
La désobéissance civile qui s'est propagée, ironie, jusqu'aux policiers descendus dans la rue malgré leur devoir de réserve pour dénoncer leurs conditions de travail.
L'épilogue au procès en appel du buraliste de Lavaur à Toulouse, Alain.
On connaîtra le verdict des assises de Haute-Garonne dans les heures qui viennent. Luc Fournier avait été condamné en 2015 à 7 années de prison pour avoir tué d'un coup de fusil de chasse un jeune homme de 17 ans qui s'était introduit par effraction dans son bar tabac. Il faut savoir que le buraliste avait découvert 4 jours avant que les barreaux de son commerce avaient été sciés. Il s'attendait donc à une visite, il avait décidé de faire des rondes et d'attendre son ou ses cambrioleurs. C'est pourquoi tout à l'heure, l'avocat général Corinne Cutilla a exclu la légitime défense.
La partie civile s'attache à démontrer que la légitime défense ne tient pas. Maître Cohen s'adresse à l'accusé. Vous avez peur, dites-vous, vous êtes tétanisé. Et pourtant, vous vous approchez de la source du danger. Votre fusil est prêt. Vous avez tué un jeune homme de 17 ans. Vous vous êtes donné le permis de tuer. L'avocat général, lui non plus, ne reconnaît pas la légitime défense. Cette nuit-là, tout était prêt pour tuer. Le geste était prémédité. Un système d'alarme bricolé, un fusil chargé. Un homme qui attendait ses agresseurs. Un homme qui tire et appelle les gendarmes pour dire qu'il a été cambriolé. Pourtant, même s'il ne reconnaît pas la légitime défense, Jean-Marc Chazotte ne requiert que 5 ans de prison assortis de sursis partiel ou total. Enfin, les avocats de la défense rappellent que leur client n'a pas de casier judiciaire, que c'est un honnête homme, un commerçant tranquille qui tient un bar sans histoire, un homme qui a tout simplement voulu protéger sa famille. Toulouse, Corinne Cutilla, France Inter.
Verdict donc dans la soirée. Ce sont des implants de stérilisation destinés aux femmes, des mini-implants dans les trompes pour déclencher une cicatrisation qui va ensuite les obstruer. Ils sont baptisés Essure et commercialisés par le groupe Bayer. Deux femmes se sont lancées aujourd'hui dans une procédure judiciaire, estimant que ces implants, dont 240 000 ont été vendus en France, peuvent causer des troubles variés, neurologiques, musculaires ou hémorragiques. Une pétition a déjà rassemblé près de 60 000 signataires. Nucléaire. Des années de mensonges, un dopage institutionnalisé qui concerne plus de 1000 sportifs russes de 30 disciplines différentes. Accablant vraiment pour Moscou que ces investigations menées sous l'égide du juriste canadien Richard McLaren. Son rapport final a été dévoilé aujourd'hui à Londres. On est, Laetitia Bernard, entre système d'État et bricolage.
Du sel et du Nescafé ajoutés aux échantillons urinaires pour fausser les résultats des contrôles. Au-delà de ces pratiques qui peuvent sembler d'un autre âge, les conclusions du rapport McLaren sont formelles. Il existe de fortes preuves d'un dopage institutionnalisé en Russie entre 2011 et 2015 concernant 30 sports et plus de 1000 athlètes. Le juriste canadien développe une conspiration institutionnelle a été mise en place pour les sports d'hiver et d'été avec la participation du ministère des Sports et de ses services comme l'agence russe antidopage aux côtés des services secrets afin de manipuler les contrôles. Des pratiques qui, de plus, se seraient affinées, auraient évolué en fonction des changements des règlements de l'Agence mondiale antidopage aux Jeux olympiques de Londres, aux championnats du monde d'athlétisme 2013 ou encore donc aux Jeux d'hiver 2014. En revanche, les identités des quelques 1000 sportifs russes concernés restent secrètes. C'est aux fédérations internationales de chaque sport de décider de ce qu'elles feront de ces informations.
La suite du football Ligue 1, un de plus épinglé et pas des moindres. Selon Mediapart, une partie des revenus de Paul Pogba, l'international français, vendu cet été pour une somme record à Manchester. Ces revenus, donc, seraient déposés dans le paradis fiscal des îles anglo-normandes, et ce, à l'instigation de son agent, Mino Raiola. Le montage financier se serait fait, dit encore Mediapart, peu avant la signature par le francilien d'origine d'un juteux contrat de sponsoring avec Adidas, estimé entre 25 et 40 millions d'euros en mars de cette année. La 17e journée de Ligue 1 est elle débute ce soir. Dijon reçoit Marseille. Quant au trio de tête, Monaco se rendra demain après-midi à Bordeaux. C'est le choc PSG-Nice qui clôturera le tout dimanche soir. Côté rugby, ce sera un week-end de Coupe d'Europe. Allez, pour terminer, et dans la série Pourquoi pas cadeau de Noël, c'est le moment ou jamais, ce livre sur le château de Versailles. Il a été fait par les 4 photographes officiels du bâtiment. C'est le choix d'Ilana Mor-Youssef qui affirme que ce grand livre est d'une beauté absolue et que s'il faut avoir un seul ouvrage sur le château de Versailles, c'est bien celui-là, et bien on lui fait confiance.
On ne va pas mentir, quand l'éditeur nous a parlé pour la première fois d'un livre sur le château de Versailles, on a fait la grimace. On imaginait un de ces vilains ouvrages proposés aux touristes. Eh bien, on se trompait lourdement, car ce livre est une splendeur. Les 4 photographes du château ont eu carte blanche pour ouvrir toutes les portes. Thomas Garnier, le plus jeune des 4.
Le château de Versailles, c'est un château qui est construit sur un axe est-ouest. Le soleil joue un grand rôle. Le matin, la première pièce que frappe le soleil, c'est la chambre du roi, et le soir, le soleil entre dans la galerie des glaces. C'est un lieu qui s'exprime à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit.
Le livre montre le château de Versailles comme on ne l'a jamais vu. Des perspectives grandioses, la galerie des glaces au soleil couchant et aussi des détails que l'œil du visiteur ne voit pas forcément. La broderie d'une étoffe ou encore le détail d'une boiserie dans l'appartement de Madame du Barry, la favorite de Louis XV.
Les appartements de Madame du Barry, c'est un espace qui est ouvert au public uniquement en visite guidée. Ce sont vraiment des appartements très sophistiqués. On sent vraiment que la du Barry avait un goût sûr. Ces appartements, ils sont à taille humaine, ils ont beaucoup de charme. Et c'est vrai que c'est un endroit dans lequel on arrive à sentir sa personnalité.
Versailles revit. Tantôt, il a des airs charmants de palazzo italien. Tantôt, on est saisi par son classicisme majestueux. Et on l'imagine tel qu'il a dû être du temps de la splendeur du règne de Louis XIV.
Le château de Versailles, c'est le titre, on ne peut pas plus simple, c'est publié chez Albin Michel, ça coûte tout de même 59 euros. Voilà, terminé sur du Lully, c'est comme un tapis rouge, j'aurais presque envie de vous appeler Claire de Servageon.
Merci pour ce moment musical, c'était le journal d'Alain Passerelle. Dans un instant, la météo.
La météo, avec les poulets fermiers de Loué. Authentiques poulets fermiers.
Élodie Calac, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Dans Cannes demain ?
Oui, alors on aura quand même pas mal de nuages entre le nord-ouest, les Hauts-de-France. Ils vont gagner la région parisienne, l'Orléanais et les Ardennes en cours de journée. Les premières gouttes s'inviteront le long de la Manche pour la fin de journée. Et puis durant la nuit suivante, de petites pluies traverseront toute la moitié nord. Alors ça offrira un peu de répit côté pollution. Bonne nouvelle. Autour de la Méditerranée, là aussi on aura beaucoup de nuages, un peu plus d'éclaircies pour l'après-midi. Et puis ailleurs, le soleil sera bien présent. Alors il devra parfois se débarrasser de quelques bandes brouillard ou de nuages bas, mais mais il s'imposera, parfois un peu tardivement tout de même le long de la Garonne et dans le Val-de-Saône.
Et les températures, Élodie ?
Un peu comme aujourd'hui, on garde le bonnet le matin avec moins 4 degrés à Dijon, moins 1 à Strasbourg, Orléans, Limoges, Lyon, 3 dans Paris, mais 9 degrés du côté de Toulon, 10 à Brest. Et puis l'après-midi, ce sera plutôt doux avec 5 à 9 degrés dans l'Est et 9 à 19 ailleurs.